bébé ne se retournait pas. Donc, je suis allée faire de l'acupuncture. J'ai fait également de l'hypnose. Tout un tas de médecines alternatives qui m'ont aidée en fait à vivre ma grossesse et mon accouchement au mieux, parce qu'une chose en entraînant une autre, j'ai rencontré des professionnels de la santé qui étaient juste incroyables.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Saviez-vous qu'en 2023, il y a eu près de 80 000 naissances en Suisse ? Ça fait tout de même 220 bébés par jour. Mais si l'événement est naturel, pour ne pas dire banal, chaque parcours de maternité est lui complètement unique. Pour sa première grossesse, Dalila a mis toutes les chances de son côté. Elle s'est fait accompagner tout au long de sa maternité par différents professionnels de la santé. Elle a aussi eu recours aux médecines alternatives. Une grossesse et un accouchement tout en douceur pour cette créatrice de contenu suivie par près de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux.
Avant, j'étais enseignante dans les degrés 5 à 8, donc avec des enfants de 10 à 12 ans environ. J'ai toujours aimé ce contact avec les enfants, l'éducation, la pédagogie, etc. Et donc l'idée d'en avoir à moi était forte. Et j'ai arrêté l'enseignement, puis je me suis mise à mon compte. Et finalement, c'était le moment pour moi en fait, de créer ma famille, de toujours transmettre, en fait, mais à mes propres enfants. Et voilà, ça s'est dessiné comme ça.
Il n'y a pas forcément de bons moments.
Malika Bounoua, sage-femme à la clinique Cécile.
Parce que souvent, on est amené à se dire, alors, ça sera quand on sera prêts tous les deux. Donc, j'entends par là le futur papa, la future maman. Quand est-ce qu'on aura une deuxième chambre, une chambre déjà pour le futur bébé, un plus grand appartement, quand on se travaillera tous les deux. Et en fait, si on est toujours amené à attendre quelque chose, en fait, des fois, on peut toujours attendre quelque chose et ce sera jamais le bon moment. Donc, ça peut toujours être le bon moment.
Au moment où on a décidé de mettre en route notre famille, ça s'est passé assez vite, de manière assez inattendue, finalement. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Donc, j'étais aux anges et on est allé manger dehors pour fêter ça et on a fait une balade au bord du lac pour se remettre un peu de nos émotions. Je me mets pas de pression. Je me dis que je vais écouter mon corps, ce corps qui crée la vie finalement, qui me demande beaucoup d'énergie. Donc au début, je suis très fatiguée. J'ai la chance de pas avoir eu énormément de symptômes, juste de la fatigue. C'était déjà bien assez. Donc je m'écoute. Je me dis vraiment... Donc au jour le jour, j'ai mes projets, je fais au mieux, je ne me surcharge pas. Je suis très heureuse avec du recul maintenant de l'avoir vécu ainsi. C'est ce qui m'a permis en fait d'avoir une très belle grossesse.
Les trois premiers mois peuvent, de manière générale, être un petit peu compliqués parce que c'est là où on a quand même pas mal de petits symptômes, des nausées, des vomissements, on n'est pas bien, on est fatigué, voilà, il y a une augmentation d'hormones qui fait que voilà, le corps change, le corps se prépare à accueillir cette grossesse en devenir. C'est pas forcément toujours tout beau, tout rose, la grossesse d'une manière générale. Donc tous les petits maux de la grossesse, on appelle ça comme ça. On dit que ça dure à peu près les trois premiers mois, mais il faut savoir aussi que ça peut être plus long et peut-être aussi durer sur tout le long de la grossesse. Donc, passé ces 3 premiers mois, on arrive au 2e trimestre de la grossesse, qui, lui, est plutôt assez bien vécu. Donc là, on a le ventre qui s'arrondit, on a un teint qui est beaucoup plus lumineux. Je généralise parce qu'évidemment, encore une fois, c'est vrai que tout le monde ne vit pas forcément la grossesse de la même manière. On peut mettre en place donc des cours de préparation à la naissance qui vont servir à discuter de la grossesse, à discuter de l'accouchement, de l'après-accouchement, de parler un petit peu du déroulement. Pour un premier bébé, c'est vrai que c'est important de faire quand même ces cours de préparation à la naissance et à la parentalité pour savoir un petit peu le déroulement de la grossesse, ce qui va se passer, ce qui est possible. Et puis après, en fonction de chaque personne, en fonction des désagréments qu'on peut ressentir pendant la grossesse, on peut essayer de jongler avec différentes choses qui sont possibles. Donc on peut avoir de l'acupuncture, on peut avoir de l'homéopathie, on peut avoir recours à l'ostéopathie, la physiothérapie, si on a des petites douleurs physiques aussi. Ça dépend vraiment de la personne, de la future maman. La grossesse, c'est pas une maladie. Mais on peut ressentir des désagréments et les médecines alternatives vont plus agir sur les symptômes, effectivement, qu'on traitera pas forcément par médicaments ou parce que ça n'aura pas forcément marché. Par exemple, les nausées, des vomissements, ça peut être de la fatigue, le sommeil qui est perturbé.
J'ai commencé par faire de l'ostéopathie parce que j'avais mal à la symphyse. Donc j'ai trouvé une superbe ostéopathe à Morges qui m'a suivie tout au long de ma grossesse et qui me suit encore à l'heure actuelle. Puis bébé ne se retournait pas, donc je suis allée faire de l'acupuncture. J'ai fait également de l'hypnose. Tout un tas de médecines alternatives qui m'ont aidée en fait à vivre ma grossesse et mon accouchement au mieux, parce qu'une chose en entraînant une autre, j'ai rencontré des professionnels de la santé qui étaient juste incroyables. J'ai également pris un suivi avec une doula, mais qui était basée au Canada, car j'en trouvais pas en Suisse en fait, encore très peu connue. Donc c'était très pratique parce que je me connectais le soir quand j'avais le temps, je suivais sa vidéo, je lisais ses articles, etc. Et il y avait possibilité également de prendre des coachings en visioconférence avec elle, donc c'était excellent.
La doula va accompagner la future maman plus du côté émotionnel, côté physique. Donc elle va être quand même assez présente dans la vie du futur couple, dans la vie de la future famille, s'il y a déjà eu des enfants aussi. Et donc elle va l'accompagner, à pouvoir la conseiller sur des choix, et pour l'accouchement aussi, sur des positions, sur l'après-accouchement aussi. Donc une fois que bébé sera là. Donc il y a tout ce côté un peu cocooning de la femme enceinte, de l'accouchement et du début de la maternité.
Arrivée au terme, Dalila doit prendre son mal en patience.
Mon bébé n'était pas du tout pressé d'arriver. On a presque dû déclencher l'accouchement. Il y a peu de souhaits que j'avais pour mon accouchement qui étaient vraiment forts. Mais le déclenchement est quelque chose que je refusais catégoriquement. J'ai essayé plein d'approches naturelles, déjà pour essayer de retourner ce bébé qui était en siège. Donc c'était pour continuer dans cette optique avec un accouchement le plus naturel qui soit. J'étais ouverte par exemple à la péridurale, à d'autres choses auxquelles on peut avoir accès qui peuvent aider lors de l'accouchement, mais pour le déclenchement je préférais l'éviter.
C'est pas toujours évident de savoir quand est-ce que sera le bon moment, parce que l'obstétrique n'est pas une science exacte. C'est des choses qu'on peut pas prédire, de savoir quand est-ce que sera le jour J de l'accouchement. Il y a une date de terme prévue d'accouchement, mais qui reste théorique. On peut aussi dépasser son terme. Donc là, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, on m'a annoncé telle date, mais en fait, je dépasse le bon moment. À partir de ce moment-là où on dépasse nos termes, il y a un peu un sablier qui se met en route où on ne peut pas dépasser son terme de manière indéfiniment et faire 10 mois de grossesse. C'est déjà bien assez. Il y a un moment donné où on n'attend pas indéfiniment que le travail se fasse spontanément et effectivement, on peut être amené à provoquer l'accouchement. Si on provoque pour une raison médicale, que ce soit d'un point de vue maternel ou d'un point de vue fœtal, alors là, c'est non négociable.
Le matin même, je suis allée à la clinique pour faire un contrôle, voir s'il y avait assez de liquide amniotique. Donc tout allait bien, j'ai refusé le déclenchement. Parce qu'on était à 10 jours et on peut aller légalement jusqu'à 12, sauf erreur. Donc je suis rentrée chez moi. Le soir, j'ai eu des contractions. J'ai appelé les sages-femmes qui m'ont dit « Ah, on pense qu'il faut venir à la clinique. » Avant ça, j'ai pris un bain à la maison. J'ai préparé les dernières petites choses avant le départ. On s'est rendu à la clinique avec mon mari et on nous a dit qu'il fallait rester. L'accompagnement était incroyable le soir de cet accouchement. Mon mari a mis de la musique zen. Et ce qui était génial, en fait, c'est que on a pu vraiment écouter nos besoins, nos désirs, créer une atmosphère un peu cocooning comme ça, un peu voilà, on s'est mis dans notre bulle. Voilà, c'est ça que je voulais, c'était vraiment être dans ma bulle. J'étais sereine, calme. Je suis allée à la clinique avec beaucoup d'enthousiasme. Mon mari était également très très calme. C'est un accouchement qui nous ressemblait en fait, parce qu'on est deux natures calmes. Et voilà, un bébé aussi finalement est arrivé tout en douceur. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un accompagnement qui était exceptionnel. Et je pense que toutes ces synergies en fait, mises ensemble, ont fait que ça s'est aussi bien déroulé.
C'est vrai que c'est important d'essayer de faire pas mal de choses pour essayer d'être dans sa bulle, d'essayer de se concentrer. On peut faire des douches, des bains, c'est des choses qui vont permettre de détendre le corps, de faire des exercices de respiration. Écouter de la musique, lire un livre, c'est vrai que quand on a des contractions, c'est pas forcément évident. Mais de faire des choses qu'on aime bien, penser à des choses qu'on aime bien. Si on a fait un peu de yoga, si on a fait un peu de sophrologie, un peu de méditation pendant la grossesse, c'est à ce moment-là que c'est important aussi de continuer de mettre en pratique. Des fois, on se prépare en faisant plein de choses pendant la grossesse, mais on sait pas vraiment comment ça va se passer, comment on sera pendant le travail. Donc, c'est bien de le faire en amont pour pouvoir le faire le jour J, au moment de l'accouchement. Ça, c'est hyper important, en tout cas, d'essayer de se préparer à faire tout ça. Le but est quand même de faciliter le travail, de faciliter, d'essayer de gérer cette douleur et d'écouter en fait la future maman. C'est elle qui va nous dire comment elle se sent, ce dont elle a envie. On a la possibilité de faire un projet de naissance pendant la grossesse et puis de dire je veux faire telle chose au moment de l'accouchement, après, je veux une péridurale, je veux pas de péridurale. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas fermées. Peut-être qu'on ne veut pas de péridurale en arrivant, et en fait, on en voudra une après. C'est important de le dire, et c'est pas irrémédiable.
Après une nuit de travail, c'est finalement l'heure pour Dalila et son mari de découvrir le visage de leur fille.
C'est indescriptible, un soulagement en fait, que ça se soit bien passé, le premier cri qui montre qu'elle va bien, qu'elle a pris sa première bouffée d'oxygène, qu'elle est avec nous. Ce premier contact peau à peau, c'est une invasion d'amour, de sérénité, de soulagement qui est mais vraiment indescriptible. On nous dit toujours ça quand on n'a pas d'enfant. Ah, tu verras, le premier contact avec ton bébé sera incroyable. Jusqu'à ce qu'on le vive, effectivement, on ne peut pas imaginer.
La naissance et les premières heures, les premiers mois sont un moment magique, un moment particulier qui peut être beau, mais qui peut être déroutant aussi. Parce qu'en fait, ça peut pas forcément être comme on l'attendait, comme on l'espérait. Donc on se fait toute une image tout un film, tout un scénario sur comment on va être bébé, comment on va l'aimer tout de suite. Et puis en fait, il y a des fois des futures mamans qui n'aiment pas forcément tout de suite, qui n'ont pas forcément le contact. On apprend à connaître son enfant, on apprend à devenir mère, à devenir père, et ça prend, c'est des étapes qu'on fait, c'est des étapes qui changent d'heure en heure, de minute en minute. Le bébé change assez rapidement aussi. Il apprend des nouvelles choses. Comme je dis, on ne naît pas parent, on le devient. Et donc, les mamans sont aidées à la maternité. Que ça soit du point de vue de l'allaitement, du point de vue de l'alimentation aussi par biberon, pour des questions pour changer bébé, les premiers soins. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau quand c'est un premier bébé, mais c'est aussi nouveau quand c'est pas forcément notre premier bébé. Puis il y a des choses qu'on apprend sur le tas, et chaque jour est différent.
Ces premiers moments avec Tara sont merveilleux. J'ai eu un accompagnement aussi au niveau de l'allaitement par les sages-femmes qui était vraiment positif. L'allaitement peut être difficile, et ça, on ne nous le dit pas forcément, en fait, quand on n'est pas encore maman. On pense qu'allaiter, c'est facile. On voit des femmes qui allaitent dans la rue, dans les cafés, dans les restaurants ou autres, et on se dit « Ah ben, c'est simple, finalement, parce que tout le monde le fait. » Mais en fait, non. Il peut y avoir plein d'obstacles, et je pense que c'est important d'être bien accompagnée dans ce processus. Et c'est ces premiers jours d'allaitement qui vont dicter toute la suite, en fait, le prochain mois, les prochaines années d'allaitement. Si on veut aller vers un allaitement vraiment à long terme, on peut aller peut-être même jusqu'à 2 ans, pourquoi pas. Et j'étais ravie, en fait, d'avoir cet accompagnement, parce que quand je suis rentrée à la maison, je me suis sentie prête. Donc, j'ai pas eu d'autres problématiques. Je suis suivie par une sage-femme à la maison, mais elle vient juste pour peser le bébé, voir si sa courbe de croissance est bien, si tout se passe au mieux pour nous deux. J'ai pas vraiment de problématique, en fait, à lui faire part, et tant mieux.
La mise en place de l'allaitement commence à se faire à la maternité. C'est assez particulier, c'est nouveau, le contact de bébé au sein. Ça se fait pas forcément tout de suite systématiquement, et c'est normal, hein, bébé apprend, découvre le sein, découvre comment téter, et puis la maman aussi apprend. L'allaitement continuera aussi à la maison. Et j'ai envie de dire aussi, surtout le premier mois où on tâtonne un petit peu, on apprend comment mettre au sein, les différentes positions, où on apprend à connaître son bébé. Et souvent, en fait, on a pas mal d'interrogations qui viennent une fois qu'on est rentré à la maison. C'est important d'être accompagné une fois qu'on rentre à la maison. Donc accompagné par son conjoint, mais aussi accompagné, on peut être entouré par la famille, par des amis, par les doulas. Une fois rentré à la maison, ça va être important de boire, de manger, de dormir. En fait, il y a des choses qui sont des besoins primaires à ce moment-là qui sont importants. Le reste est assez aléatoire. Et ce qu'il faut, c'est aussi se reposer. Et on est dans sa bulle, on est concentré avec son bébé. Effectivement, on est moins entouré dans le sens où on n'a plus tous ces professionnels qui viennent constamment dans la chambre. Si on a un souci, on appelle tout de suite. On est là pour nous aiguiller. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul, et c'est important de ne pas être seul. Et en tout cas, quand on a des interrogations, soit d'appeler, soit de demander de l'aide. Et puis si vraiment on est très fatigué, de demander de l'aide même à une copine qui peut nous garder bébé, pour s'autoriser un petit moment de repos. Des fois, juste dormir un petit peu, 2 heures, sortir, prendre l'air, prendre du temps pour soi, c'est important, c'est ressourçant, et ça permet de s'occuper de plus belle de bébé.
Mon mari est très présent. On a un enfant à deux, et je pense que c'est le rôle des deux de s'en occuper de manière équitable. Et c'est essentiel, en fait, pour que tout se passe bien, pour que l'allaitement puisse bien se passer, pour que le bébé puisse avoir un environnement dans lequel il pourra s'épanouir par la suite. Je suis très reconnaissante de tout ça. Et au niveau de mon travail, bien sûr, j'ai levé le pied. Je suis en congé maternité pour quelques mois. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma famille, sur les moments en fait qui passent très vite. Ce premier mois est passé mais d'une vitesse, à une vitesse folle. Et je suis contente en fait de pouvoir profiter de chaque instant, de pouvoir les savourer, de pouvoir voir mon bébé grandir. Et tout ça dans un environnement qui est très positif.
Et si pour Dalila et sa fille tout s'est passé avec douceur, il est important de se rappeler que chaque parcours reste singulier et qu'aucune initiative ne garantit une maternité sans souci.
Il y a des fois, la grossesse peut engendrer certaines complications. Donc c'est important de l'avoir en tête et de ne pas se faire un scénario tout forcément tout rose de l'annonce de la grossesse à l'accouchement. Et puis après l'accouchement. Ces différentes étapes, chaque personne est différente et chaque grossesse est différente.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la grossesse et l'accouchement en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.